Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 3 décembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, premier meeting sous la pluie et faux départ à quelques semaines des élections du 23 décembre.
Pierre Buyoya, l'ex-président burundais, dénonce une manipulation politique après le mandat d'arrêt international lancé contre lui par Bujumbura.
Au Nigeria, les attaques des djihadistes de Boko Haram font de nouvelles victimes pendant le week-end.
Visite controversée du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman en Algérie, où il est arrivé hier soir.
L'Amérique continue de rendre hommage à son ex-président George Herbert Walker Bush, décédé vendredi à l'âge de 94 ans.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
À 3 semaines de la présidentielle en RDC, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont tenu leur premier meeting sous la pluie. L'autre opposant, Martin Fayoulou, a fait un faux départ. Et le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadary, a quant à lui fait campagne dans l'ex-Katanga minier dans le sud-est. Des détails avec Eric Manirakidza.
Le ticket d'opposant Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe a lancé hier sa campagne à Kinshasa sous une pluie incessante devant quelques centaines de sympathisants dans le quartier populaire du camp Luka à Kinshasa. Monsieur Tshisekedi a montré du doigt les routes détrempées pour dénoncer le bilan du président sortant Joseph Kabila. C'était très difficile pour nous d'arriver ici, ils n'ont rien fait, la population du camp Luka est abandonnée. Nous regrettons les conditions de vie des habitants d'ici, a-t-il déclaré. Messieurs Tshisekedi et Kamerhe doivent partir demain à la conquête de l'Est à Goma dans le Nord Kivu. Dans cette campagne, des rendez-vous peuvent toujours être annulés ou reportés à la dernière minute. C'est le cas pour l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayoulou. Il a finalement reporté à mercredi le lancement de sa campagne dans la ville de Beni, également dans le Nord Kivu, où il voulait initialement arriver hier. Monsieur Fayoulou veut articuler sa campagne sur la sécurité à Beni, cible des attaques du groupe armé ADF et d'une épidémie d'Ebola. De son côté, Emmanuel Ramazani Shadary, candidat de la majorité, a pour sa part fait campagne toute la semaine dans l'ex-Katanga minier dans le sud-est. Il a promis de mettre en prison un agent de l'État qui se livrera à la corruption durant son mandat. Au total, 21 candidats ont été retenus pour la succession du président Kabila au pouvoir depuis janvier 2001.
L'ex-président du Burundi, Pierre Buyoya, a dénoncé hier ce qu'il a appelé une manipulation politique en réaction à un mandat d'arrêt international lancé vendredi contre lui. La justice burundaise l'accuse d'être impliqué dans l'assassinat le 21 octobre 1993 de Melchior Ndadaye, premier président hutu démocratiquement élu du pays. Jean-Roger Bion.
Tout laisse à penser qu'il s'agit là d'une simple manipulation politique et d'une nouvelle manœuvre de diversion pour faire oublier les questions douloureuses non résolues depuis le début de la crise en avril 2015, de la crise politique que traverse le Burundi, a déclaré Pierre Buyoya. D'après lui, Bujumbura a choisi de s'emmurer délibérément dans le refus du dialogue malgré les multiples sollicitations de la communauté internationale. Le major Buyoya a rappelé qu'un jugement avait été rendu dans cette affaire. Une dizaine de soldats ont été condamnés en 1998 dans un procès considéré comme celui des exécutants. Le plus haut gradé était lieutenant. Il a également souligné qu'un consensus avait été dégagé sur la voie à suivre pour résoudre ce qu'il a été convenu d'appeler le contentieux de sang dans le cadre de l'accord de paix d'Arusha qui avait ouvert la voie à la fin de la guerre civile. 11 hauts gradés de l'armée et de la gendarmerie et 5 de ses anciens collaborateurs civils sont également recherchés pour leur rôle présumé dans l'assassinat de M. Ndadaye. Ce meurtre avait été à l'origine d'une guerre civile entre 1993 et 2006. Elle a fait plus de 300 000 morts et opposé l'armée à des mouvements rebelles hutus.
Au Nigeria, 2 soldats ont été tués samedi soir dans l'attaque d'une base militaire dans le nord-est du pays. Boko Haram a également mené un attentat suicide durant le week-end, blessant 5 miliciens. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Un milicien qui combat aux côtés de l'armée contre Boko Haram indique que les djihadistes sont arrivés en début de soirée et ont ouvert le feu sur les troupes de la base militaire de Bunigari, un village isolé de l'état de Yobe dans le nord-est. Ils ont engagé d'intenses combats avec les soldats sur place. Un officier militaire qui a gardé l'anonymat a déclaré que les djihadistes ont été mis en déroute grâce à l'arrivée de renforts aériens et terrestres provenant d'une ville voisine. Au même moment, à Maïdigouri, deux femmes kamikazes ont été tuées dans une explosion et cinq miliciens ont été blessés. Les soldats déployés dans le nord-est se plaignent régulièrement de manquer d'armes et de vivres face à des insurgés nombreux et lourdement armés. Cette branche de Boko Haram, affiliée à l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest, a intensifié ces derniers mois les attaques contre les positions de l'armée nigériane dans les États du Borno et de Yobe, les plus touchés par l'insurrection qui a fait plus de 27 000 morts depuis 2009.
Le prince héritier saoudien est arrivé hier soir à Alger dans le cadre de sa première tournée à l'étranger depuis l'affaire Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien tué en octobre au consulat de son pays à Istanbul en Turquie. La visite de Mohamed Ben Salman suscite des critiques dans certains milieux intellectuels et politiques en Algérie. Dans une déclaration obtenue par l'AFP, 17 intellectuels, journalistes et oulémas notamment, ont dénoncé la visite du prince dont le monde entier s'est qu'il a été l'ordonnateur d'un crime abominable contre le journaliste, ont-ils écrit. Cet assassinat a ébranlé la position à l'international du prince, accusé par des responsables turcs et américains de l'avoir commandité, ce que dément Riyad.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Ici aux États-Unis, les Américains rendent hommage à George Herbert Walker Bush, qui a dirigé le pays pendant la fin de la guerre froide. Le 41e président américain, décédé vendredi à l'âge de 94 ans, aura droit à des funérailles nationales. Nous retrouvons Eric Manirakidza.
Ses amis insistaient tout ce week-end sur son bilan de politique étrangère. En 4 ans de mandat, entre janvier 89 et janvier 93, le président Bush a vécu la chute du mur de Berlin en novembre 89 et l'effondrement de l'Union soviétique en 91. Il a négocié l'accord de libre-échange nord-américain signé par son successeur Bill Clinton et de traités de réduction des armes nucléaires. Il a aussi éjecté l'Irak de Saddam Hussein hors du Koweït en 90, tout en refusant d'aller jusqu'à Bagdad pour renverser le dictateur. Le président Donald Trump entend lui rendre tous les honneurs. Il a dépêché le Boeing 747 présidentiel baptisé Air Force One pour chercher le cercueil au Texas et le ramener à Washington. Ce cercueil sera exposé en chapelle ardente sous la coupole du Capitole à partir de ce soir. Une garde d'honneur veillera en permanence pendant un peu plus de 37 heures jour et nuit. Mercredi, journée de deuil national, les funérailles prendront place dans la cathédrale nationale à Washington. L'ancien premier ministre canadien Brian Mulroney prononcera un éloge funèbre. La liste des dignitaires étrangers n'a pas encore été annoncée, puis ce sera le retour chez lui au Texas après un autre office funéraire à l'église épiscopalienne de Saint-Martin à Houston. Un train amènera le cercueil sur le campus de la bibliothèque présidentielle George Bush. Il sera enterré aux côtés de Barbara, son épouse décédée en avril dernier, et de Robin, leur fille morte d'une leucémie à 3 ans.
Les deux plus grandes économies du monde, les États-Unis et la Chine, se sont entendues sur une petite trêve dans leur guerre commerciale croissante après une réunion entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping en marge du sommet du G20 à Buenos Aires. Ils se sont entendus sur la suspension pour une durée de 90 jours de la mise en œuvre de nouveaux droits de douane américains sur les importations chinoises. Les deux parties travailleront entre-temps sur des changements structurels dans leurs relations commerciales et Pékin s'engage à acheter une quantité, pas encore définie mais très substantielle, de produits américains pour réduire l'énorme déséquilibre commercial entre les deux pays. Nous reviendrons sur les relations États-Unis-Chine en seconde partie de cette édition avec des extraits d'une interview avec le président Trump.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Salami.
L'Afrique de l'Ouest, qui représente 70% de la production mondiale du cacao, connaît un niveau de récolte élevé qui pèse depuis plusieurs mois sur les prix. Néanmoins, les prix de cette matière première ont connu une hausse modérée la semaine dernière. Les analystes soutiennent que les producteurs peuvent compter sur la forte demande de l'Asie. les échanges commerciaux globaux entre la Suisse et l'Afrique se sont établis à 12,1 milliards de francs suisses en 2017, indique l'association Swiss African Business Circle. D'après l'agence Ecofin, les principales marchandises exportées sont les produits chimiques et pharmaceutiques, les machines, les instruments de précision, les montres et les bijoux, ainsi que les produits agricoles. Les produits énergétiques, agricoles et les textiles représentent pour leur part l'essentiel des exportations. Six pays représentent 75% de ces échanges: l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Terminons avec le Ghana qui a enregistré un excédent commercial de 1,7 milliard de dollars entre janvier et octobre 2018 selon Africa News. Les performances macroéconomiques de ce pays continuent bien de croître cette année grâce à l'augmentation des exportations du pétrole. Un bon point pour Accra qui a su compter sur la progression croissante des prix de ses principales matières premières.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer, et après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, l'Afrique du Sud sollicitée.
Oui, sur Twitter, la Fédération Sud-Africaine a confirmé hier avoir été sollicitée par la Confédération Africaine de Football, mais ne souhaite pas se mouiller sur ce dossier sans avoir au préalable consulté le gouvernement sud-africain. D'après Paul Russell, le directeur général de la SAFA, l'organisation d'une 4 à 24 coûterait au moins 10 millions de dollars. Reste à savoir si l'État sud-africain serait prêt à mettre la main à la poche. Dans le cas contraire, le Maroc ferait plus que jamais figure de grand favori pour remplacer le Cameroun.
Sur le terrain cette fois, final retour de la Coupe de la CAF avec le sacre du Raja de Casablanca.
Pas de suspense, on peut le dire. Les Marocains couronnés, mais ils ont eu très chaud devant les Congolais de l'AS Vita Club à Kinshasa. Les hommes de Florent Ibengue ont failli renverser le score du match aller. Battus 3-0 il y a une semaine, ils se sont imposés 3-1 au retour, insuffisant malheureusement. Ça reste des regrets selon Florent Ibengue, le coach des Dauphins Noirs qu'on écoute.
Le match, vous l'avez vu comme nous, on a fait 3-1, on vient de le gagner. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour remporter la coupe. Et donc félicitations au Raja. Je crois qu'on paye notre non-match au match aller. Cette défaite 3-0 a été importante. Le but marqué par le Raja à l'extérieur, c'est-à-dire celui que nous on cherchait, on n'a pas marqué là-bas. Eux, ils ont su le mettre ici. Et ça a été suffisant pour pouvoir gagner. Donc ça reste des regrets, mais c'est aussi ça la vie du foot.
Très heureux, Juan Carlos Garrido, entraîneur du Raja, reconnaît que le match a été difficile.
Pour nous, pour notre équipe, c'est très important les deux matchs parce que c'est des matchs de notre part, sont des matchs horribles. Nous avons joué très 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 mal, nous avons fait beaucoup d'erreurs. Et je pense que nous avons utilisé ces deux matchs comme une manière d'améliorer et de savoir que de cette manière c'est impossible de gagner. Alors, avec l'analyse des matchs, je pense que notre équipe a réactionné d'une manière positive et a fait cette finale, a fait à Casablanca un très bon match. Et ici, les matchs que se doit faire avec la circonstance des résultats de Casablanca.
Coupe du Cameroun Heading Sport s'adjuge le trophée.
Le club de la Lekki a remporté la 59e édition de cette compétition hier face à Lyon blessé sur le score de 1-0. Un but de Francis Balianga qui a été élu homme du match. Heading Sport ne pourra pas participer à la Coupe de la CAF, la date fixée par la Confédération africaine de football à chaque pays afin de donner ses représentants est passée depuis le 27 novembre dernier.
Handball à présent avec le début hier de la CAN féminine au Congo-Brazzaville.
Et belle entrée des favorites, notamment l'Angola, championne en titre, a battu la Guinée 47. Les Angolaises prennent déjà la tête de leur groupe et devant le pays hôte, le Congo-Brazza, qui a dominé le Maroc 36-23. Dans la poule B, le Sénégal a surpris le Cameroun 23-18. Et puis, succès de l'Algérie 27-24 devant la Côte d'Ivoire.
Basketball, l'Angola est le troisième pays africain qualifié pour le Mondial 2019.
Oui, après la Tunisie et le Nigeria, l'Angola a validé son ticket pour la prochaine Coupe du Monde prévue en 2019 en Chine. Les Palancas Negras se sont qualifiés en battant nettement le Tchad 66-63. Il reste trois tickets à prendre dans 16 éliminatoires et le Cameroun est bien parti pour l'avoir après son succès 80-60 face à l'Égypte. Et puis, la NBA est avec vous, Idrissa. Les résultats des matchs joués la nuit dernière.
Miami et Utah, 102-100. Philadelphie et Memphis, 103-95. Dallas et LA Clippers, 114-110. San Antonio et Portland, 131-118. Charlotte et la Nouvelle-Orléans, 109-119. LA Lakers et Phoenix, 120-96.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, la mort annoncée il y a une semaine du leader de la Katiba Ansar Edine du Massina, Amadou Koufa, continue d'alimenter les débats à Bamako. Les sceptiques, malgré les assurances données par la France et le Mali, pensent que Koufa est toujours en vie. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Une journée dominicale mouvementée. Au niveau des mairies, les échanges et les causeries portent sur l'assassinat de Amadou Koufa.
Ils ont tué Kadhafi, tout le monde a vu les preuves avec les photos à l'appui. Saddam Hussein, lui, il a été pendu, tout le monde l'a vu. Mais à ce qui concerne pour Amadou Koufa, quand même s'il est si bien dit mort, ça nous arrange et nous aimons bien pour notre nation. Mais on n'a pas vu de preuves à l'appui, ni rien. Quand même, il devrait montrer son image si bien dit mort. Ah, c'est lui, Amadou Koufa, et il est mort. Voici la photo. C'est ça qui était bon.
Les dimanches, ce sont les jours de mariage, mais aussi des jours de retrouvailles dans les grains. Dans les grains, les tonjons de Daoudabougou, c'était le rétro de l'actualité avec l'assassinat de Koufa en toile de fond.
Je m'appelle Jérémy Diarra. Par rapport à la mort de Koufa, moi quand même, je fais confiance. Les militaires là, il y a des militaires au front qui ont confirmé comme quoi il est mort. On dit que même sa famille a confirmé sa mort. Donc là, quelqu'un peut faire confiance à cette information. Le fait qu'on n'a pas vu son corps, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas mort. On a vu beaucoup de gens qui sont morts au front, on n'a pas vu leur corps. On ne sait pas pour quelles raisons ils n'ont pas voulu montrer son corps. Amadou Koufa, il a fait à peu près 5 ans au nord du Mali. Il n'a jamais dit comme ça. Il est mort. Donc si aujourd'hui on vient dire qu'il est mort, et avec vraiment des preuves souvent, je peux croire qu'il est mort.
C'est pas comment. Je suis très content. Ma joie est immense parce que c'est quelqu'un qui nous a vraiment posé trop de tort. C'est émotif en réalité. C'est émotif.
Au-delà du Malien moyen, le sujet intéresse les cadres. Amadou Odjalo, directeur du journal Kibaru, édité en langue nationale bamanankan.
Le changement de gouvernance dans la région de Mopti, gouvernance administrative, gouvernance militaire, montrait déjà depuis un certain temps la décision de l'armée du Mali en découdre avec ce monsieur. Le gouverneur de Mopti, c'est un officier de renseignement. Il n'est pas là pour rien. Et en même temps, il est venu avec un nouveau commandement militaire à Mopti, dans la région de la 5e région. Ça veut dire que le gouvernement malien avait déjà annoncé la couleur. Les renseignements ont localisé, géolocalisé exactement là où il peut se trouver et comment faire. Et j'ai dit, l'opération pouvait être menée sans la participation de Bakan.
Malgré les assurances données par la France et le Mali sur la mort de Koufa, le chroniqueur Adam Cham se veut vigilant.
Et dans la doxa djihadiste en général, ils n'occultent pas la mort de Moujahidine parce que pour eux, c'est un martyr. Donc s'ils disent qu'il a été remplacé, ça veut dire qu'ils acceptent qu'il est mort. Et or, tout le problème aujourd'hui, c'est d'avoir la confirmation de la mort de Amadou Koufa. Rappelez-vous, sur Abou Zeid, il a fallu des mois et des mois pour que le test ADN confirme que c'était lui et que les Français reconnaissent effectivement que c'était Abou Zeid.
Koufa n'est pas seul et sa mort ne saurait être une victoire contre le terrorisme. C'est ce que pense Maître Chekoumar Konare, avocat à la Cour.
C'est pourquoi je pense que la guerre va continuer tant qu'on n'en aura pas fini avec les chefs de guerre qui constituent Yad Agali et Al-Sahrawi. Koufa n'était qu'un lieutenant de et il reste un lieutenant. La Katiba Massina n'est qu'un démembrement dans sa team et ça va continuer à l'être, que Koufa vive ou non. Donc il faut une solution globale.
Malgré la mort de Koufa, la tension reste vive au nord et au centre du pays. Bamako, Kassim Traoré, VOA Africa.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Journée mondiale de lutte contre le sida. Au Burkina Faso, la maladie est sur le point d'être éradiquée selon les autorités sanitaires qui estiment le taux de prévalence à 0,8%, un progrès considérable dans la lutte contre la pandémie dans ce pays où ce taux se situait à 7% il y a 20 ans. Le Burkina se fixe désormais comme objectif d'atteindre la prévalence zéro. Et pour cela, l'accent a été mis cette année sur le dépistage. De Ouagadougou, Lamine Traoré.
Au milieu des années 90, comme dans de nombreux pays africains, le sida battait son plein au Burkina. Le pays était à une séroprévalence qui dépassait les 7% de sa population. Aujourd'hui, la maladie est en voie d'être éliminée au Burkina. Nicolas Meda est le ministre de la Santé.
Aujourd'hui, après une lutte intense, nous sommes arrivés à une prévalence de VIH-Sida à 0,8%. C'est-à-dire que nous avons quasiment éliminé le VIH au Burkina Faso.
Mais cette victoire apparente semble compliquer la suite de la lutte. Le sida ne semble plus préoccuper les populations qui ont, selon les constats, baissé la garde. Selon le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, 94 000 personnes vivent avec le VIH-Sida au Burkina Faso et environ 10 000 ignorent encore leur statut sérologique. Le CNLS-IST appelle donc les populations à connaître leur sérologie. Docteur Didier Bakouan, secrétaire permanent du CNLS-IST.
Il y a au moins 25% des jeunes dans le monde qui ne connaissent pas leur statut. Au Burkina, c'est presque la même chose. Le taux est autour de 20% qui ne connaît pas son statut. La connaissance de son statut est la porte d'entrée pour une prise en charge. Quand vous ne connaissez pas votre statut, on ne peut pas vous soigner. Et à l'heure actuelle, nous disons que les traitements sont efficaces, les traitements sont accessibles, les traitements sont gratuits et les traitements permettent de vivre très bien.
AAS, Association africaine Solidarité, se bat depuis des décennies pour le bien-être des personnes vivant avec le VIH. Elle suit près de 4000 personnes vivant avec le VIH, dont moins de 3000 sont sous traitement. L'association aide à dépister environ 20 000 personnes par an. Awa Kone, directrice de AAS.
Une fois qu'on est sous traitement, on réduit les risques de transmission du VIH aux autres. Que d'ici 2020, par exemple, 90% de toutes les personnes vivant avec le VIH-Sida sachent la sérologie. Parce que tu ne peux pas voir quelqu'un comme ça et puis savoir si le VIH plus vit avec le VIH ou pas. Il faut forcément un test.
Une chose est de connaître son statut sérologique, mais une autre chose est d'être accompagné. Pour les personnes déclarées positives, même si les antirétroviraux sont gratuits au Burkina, les associations et organisations de la société civile demandent à l'État de donner les moyens aux communautés d'accompagner les structures de santé pour une meilleure prise en charge. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le retrait vendredi de l'organisation de la CAN 2019 a été un coup dur pour le Cameroun. Samedi, le gouvernement a dénoncé à Yaoundé la décision de la CAF, la qualifiant d'injustice flagrante. Et dans les rues, les Camerounais ne cachent pas leur mécontentement. Reportage de notre correspondant Emmanuel Jultap à Olembe, une banlieue de Yaoundé, où un stade de 60 000 places, devant abriter les matchs d'ouverture et la finale du tournoi, est encore en construction.
Au lendemain du retrait de la CAN 2019 au Cameroun, le chantier d'Olembe est l'objet de toutes les attractions. Par petits groupes ou seuls, les riverains du chantier arrivent sur le site. Les mines sont tristes et le ton dur. Jarel et Edith font partie du groupe des visiteurs.
Le Cameroun n'est pas prêt à organiser cette CAN.
Les travaux n'avancent pas comme il le faut.
Jean-Jacques, quant à lui, habite à une centaine de mètres du stade d'Olembe. Le cinquantenaire, main aux hanches, les yeux rivés sur le chantier du stade, est presque sans voix au regard de l'état d'avancement des travaux à Olembe.
Vous êtes déçu en tant que Camerounais du fait qu'on ait retiré la CAN?
À l'une des entrées qui conduit vers le futur complexe sportif d'Olembe, un autre groupe de jeunes gens commente la décision de la Confédération africaine de football. Daniel Mengue est le plus enthousiaste du groupe.
C'est un chantier que j'observe depuis un bon bout, mais je crois quand même que cela me semble assez insuffisant. Quand on ajoute à cela certains autres facteurs qu'on connaît, les problèmes urbains au Cameroun, l'insalubrité, l'état des routes qui peut être assez décevant, les transports et tout ça, je me dis que ça enlève pas une organisation assez difficile.
La CAN 2019, qui devait se tenir au Cameroun, était aussi un rêve pour les jeunes footballeurs de la Best Talent Sports Academy, un centre de formation qui tient chaque samedi des séances d'entraînement non loin du chantier du stade. Hervé Lando, promoteur de la Best Talent Sports Academy.
La CAN était comme un prétexte pour nous de créer cette émulation au sein de cette jeunesse, de leur permettre de rêver.
En prélude à la CAN 2019, la banlieue de Lembe s'est modernisée. Logements sociaux flambant neufs, villas en construction et routes spacieuses. Un gâchis, selon Abdou et Armand, deux jeunes de la banlieue de Lembe qui crient à la conspiration contre le Cameroun.
Le Cameroun était liquidé, un grand complot. Quand vous voyez vous-même l'état du stade, c'était comme ça avant. Ça veut dire que c'est presque fini.
Quand je regarde le stade, on était prêts.
Les autorités camerounaises, par la voix du porte-parole du gouvernement, ont qualifié la décision de la CAF d'injuste. Issa Tirouma, ministre de la Communication.
Cette décision étonnante à plus d'un titre ne rend assurément justice ni aux investissements colossaux consentis par notre pays, ni à l'engagement déterminé du chef de l'État et du peuple camerounais pour abriter en 2019 une fête éclatante du football africain.
46 ans après avoir organisé une Coupe d'Afrique des Nations de football, le Cameroun va devoir encore attendre avant d'espérer réunir une nouvelle fois l'élite du football africain. Emmanuel Junta, de retour de la banlieue d'Olembe, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Comme promis en première partie, eh bien, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont déclaré samedi une trêve dans leur conflit commercial. À l'issue d'une rencontre à Buenos Aires, en marge du sommet du G20, ils sont entendus sur la suspension pour une durée de 90 jours de la mise en œuvre de nouveaux droits de douane américains sur les importations chinoises. D'autre part, dans une interview avec le président Trump, Greta Van Susteren de la Voice of America a noté que Pékin a multiplié ses investissements en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Et elle a voulu savoir si M. Trump est rassuré par les objectifs stratégiques de la Chine.
Eh bien, je pense qu'ils auront moins d'argent qu'aujourd'hui à cause de l'accord que je passe. Et si vous regardez, nous avons 250 milliards de dollars actuellement à 25%. Cela signifie que nous allons gagner des milliards et des milliards de dollars. En plus, je peux doubler ce montant et ensuite le doubler encore une fois. Ils ne pourraient jamais faire ce qu'ils ont fait dans le passé avec d'autres présidents. Car, et vous voyez ce qui se passe avec la Chine, je ne veux pas faire cela. Mais ils ne vont pas très bien maintenant comparé à ce qu'ils faisaient. Et encore une fois, je pense que nous allons bien.
Mais sur le plan de la sécurité nationale, vous savez, grâce à leurs investissements en Amérique latine et dans le monde entier, il semble bien que leur empreinte se renforce dans le monde entier.
Je sais, mais ils ont un problème de dette. Ils doivent payer pour cette dette. C'est une énorme somme d'argent qu'ils dépensent. Est-ce que j'aime cela? Probablement pas. Mais je sais aussi que c'est très cher pour eux et les choses ne marche pas dans beaucoup de ces places.
Maintenant, parlons de notre économie. La semaine prochaine, un vote pourrait éventuellement être proposé sur une fermeture du gouvernement. Tout d'abord, pensez-vous que le gouvernement des États-Unis fermera ses portes et que cela aura un impact économique mondial quelconque?
Eh bien, je ne peux pas vous dire s'il y aura une fermeture, car personne ne le sait, mais je vous dirais que nous allons avoir la sécurité des frontières, beaucoup de sécurité à la frontière. Vous avez vu ce que nous avons fait avec toutes les caravanes qui montent et maintenant elles commencent à sortir. Commence à rentrer, nous allons avoir la sécurité. Nous n'allons pas laisser les gens entrer illégalement dans notre pays. Nous allons avoir des gens qui viennent sur le mérite. Nous avons besoin des gens, vous savez. Nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 51 ans. Nous avons besoin des gens dans ce pays. Le premier ministre Abe du Japon vient de me dire qu'il déménageait deux constructeurs automobiles. Ils vont ouvrir deux usines gigantesques. Vous savez, vous n'entendez pas souvent cela, mais c'est souvent le cas. Vous avez entendu parler de General Motors et je ne sais pas ce qui se passe avec General Motors, mais la tendance est tout à fait opposée. Et je dirais ceci, notre économie n'a jamais fait mieux. Nous faisons des chiffres incroyables, vous voyez ça, et il se passe beaucoup de bonnes choses.
C'était des extraits d'une interview accordée par le président Donald Trump à Greta Van Susteren de la VOA.
Hello, hello, I'm your English host, je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? c'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h30. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Zeynab Abdelrahman. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloukia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.